Ce merveilleux cantique qu'elle vient de chanter, nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette merveilleuse semaine de jeûne et prière. Et en réalité, pour moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'atmosphère de l'Église, de plus en plus, est surchargée de cette présence de Dieu. Et je crois qu'avec les jeûnes et prières que vous faites, cela permet à votre esprit et votre âme d'être libérés plus pour mieux avoir accès à cette présence de Dieu qui est en vous. Et je crois que c'est une grande chose pour nous que cette semaine de jeûne et prière qui est faite à Mulhouse ici. Nous devons rendre grâce à Dieu si dans chaque région de France, il y avait un grand rassemblement annuel comme cela. Je crois qu'à l'est, à l'ouest, comme au nord, au sud, la France serait visitée par un esprit puissant de réveil. Mais comme Dieu vous a dit que dans cette parole prophétique que vous devez briser, vous êtes des brise-glaces, donc allons et comptons sur cette parole de Dieu, allons de l'avant et progressons avec le Seigneur, car le Seigneur a des choses qu'il a préparées, qu'il veut les accomplir, et il demande à ce que nous soyons simplement fidèles. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette Église, et nous bénissons pour votre fidélité dans l'œuvre de Dieu. Mais simplement, nous avons voulu partager avec vous cette semaine, surtout les enseignements du matin. Ce sont les enseignements très importants qui aident le chrétien à se stabiliser lui-même, lorsqu'il comprend non seulement la différence entre son esprit, son âme et son corps, et quand il commence à comprendre comment ces trois éléments fonctionnent en corrélation, et que si celui du milieu, qu'on appelle l'âme, ne fonctionne pas bien, et il crée donc un empêchement que la vie divine, la foi, l'amour, ces choses qui sont dans votre esprit, puissent couler abondamment dans votre vie, afin de se manifester au dehors. Car nous regardons, Jésus dit que les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi. Alors, si vous comprenez ce principe-là, vous devez savoir, Jésus dit, il n'a pas dit c'est le Père qui est au ciel qui est en train de faire les œuvres. Nous devons comprendre. Il dit, c'est le Père qui est en moi. Les paroles que je dis, c'est le Père qui est en moi par son esprit, qui me donne ses paroles. Et ensuite, il dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi. Et il nous a invités dans ce passage de Jean 14, 12 et 13. Il dit, bon, je m'en vais au Père, et vous aussi, vous ferez les mêmes choses. Mais de quelle manière? La même méthodologie, avec les mêmes principes, que lorsque le Père et lui viendront habiter en nous, par le Saint-Esprit, nous puissions aller de l'avant. Donc, les enseignements du matin sont des enseignements très importants, qui permettent de comprendre. Les enseignements du soir sont des enseignements généraux que nous avons donnés pour que nous puissions nous-mêmes voir comment on peut opérer. C'est pourquoi ils se suivent, mais ce sont les grands principes que nous avons, en tout cas, tenté par la grâce de Dieu de partager les uns avec les autres. Et c'est pourquoi l'enseignement de ce soir est intitulé du moins le premier des miracle. Alors nous allons ouvrir dans Jean 2. Nous allons ouvrir dans Jean 2 et nous allons lire le verset 11. Jean chapitre 2, verset 11. Jésus vient de commencer son ministère. Et la Bible nous dit ici, ayant commencé son ministère, il n'avait opéré aucun miracle. Aucun miracle. Et ce verset 11 nous dit ici, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quand nous regardons le contexte de ce premier miracle, ce n'est pas un hasard. Souvent, nous voulons voir les miracles dans l'Assemblée des saints, ce qui est logique et légitime, car nous attendons à ce que Dieu agisse. Mais Dieu nous amène d'abord à voir la manifestation de sa gloire dans notre milieu familial, dans notre maison, dans le cercle restreint de la cellule familiale. Lorsque les miracles sont expérimentés là, tous les membres du foyer sont édifiés. Et le but des miracles, comme il est écrit dans ce passage-là, il dit « Jésus manifesta sa gloire ». Donc le but des miracles, ce n'est pas simplement pour pourvoir à mes besoins. Le premier but des miracles, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, si je veux m'attendre à un miracle, si je veux que Dieu fasse un miracle, le Saint-Esprit regarde ma motivation. Il regarde scrupuleusement ma motivation. Est-ce que ce miracle-là va servir à la gloire du Père, ou c'est simplement un miracle qui, lorsqu'il sera accompli, deux ou trois jours après, je vais l'oublier et Dieu n'aura aucune gloire à part de ce miracle-là. Ça, c'est au niveau de Dieu. Le deuxième élément du miracle, il est horizontal. Le premier est vertical. Donc, je donne gloire à Dieu. Dieu est glorifié. Le deuxième élément du miracle, c'est horizontal. Et la Bible dit, « Et ses disciples crurent en lui. » Le miracle, le deuxième élément du miracle, permet aux hommes qui sont comme moi et qui ont vu ce miracle de Dieu accompli par le Saint-Esprit à travers un autre humain, de commencer à croire, effectivement, qu'encore Dieu aujourd'hui utilise l'homme pour sa gloire. Ça ramène la pensée où nous pensions que ce sont des gens extraordinaires qui font les miracles, et les gens qui sont autour de nous commencent à réaliser que le miraculeux n'est pas simplement donné à des gens exceptionnels, que le miraculeux est possible. Et le miraculeux est possible du fait que lorsque dans chaque élément, là où j'ai vu le miraculeux, ce sont des choses simples dans ma famille. C'est lorsque mes enfants sont malades, comment parfois je les prends dans mes mains et je prie pour eux, instantanément, je vois pneumonie double au niveau de ma première fille qui avait tout juste même pas un an parce que je l'ai amenée dans le froid, et bon, qui n'est pas un froid comme celui-ci. Et elle a piqué une pneumonie et là, c'était notre première fille, nous tremblions, mais je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit adieu, ma femme était là, vraiment était triste, et en un clin d'œil, j'ai vu la grâce de Dieu toucher et guérir son corps instantanément. Donc, c'est à partir de ce moment, et j'ai commencé à voir sur le plan financier comment Dieu opérait. Et cela a amené notre foi à se placer en Dieu lui-même. Donc, le but de ce premier miracle, c'est de nous enseigner les principes et des leçons que nous devons tirer du premier des miracles pour voir comment ces principes-là s'appliquent de façon générale, mais de façon adaptée à chaque situation que nous rencontrons dans nos vies. Donc, ce n'est pas un miracle qui a été fait au milieu d'une église ou dans une croisade d'évangélisation. Ceux qui étaient ici, c'était des juifs. Ceux qui étaient là, c'était des croyants. Ceux qui étaient là étaient des gens qui étaient proches de Jésus, de la famille élargie. Donc, ce sont eux qui vont bénéficier de ce premier des miracles. Et en ce moment-là, ils ont commencé à croire en Jésus. Maintenant, voyons comment ces miracles s'est produit et quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de ce premier miracle-là. Au verset 1 d'abord, il est dit, trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'y a plus
de vin. La question qui se pose ici, pourquoi Marie s'est-elle adressée à Jésus concernant donc cette situation? Qu'est-ce qui a amené Marie à le faire? La Bible nous montre que avant que Jésus ne vienne, ne soit conçu dans le sein de Marie, l'ange Gabriel a été envoyé à cette jeune fille pour lui dire qu'elle avait reçu une grâce, que la grâce du Seigneur est avec elle et qu'elle sera enceinte, qu'elle enfantera un fils du nom de Jésus. Elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange de lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre et la puissance l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et la puissance du Très-Haut va manifester cet enfant dans ton sein. Donc, première chose, Marie a commencé à être habituée au surnaturel, au miraculeux de Dieu. Marie a commencé à expérimenter dans sa vie la parole de Dieu qui devient une réalité. Marie a commencé à voir que Dieu ne ment point. Et ça, c'est très important. Elle a commencé dans sa vie personnelle à expérimenter que ce que l'ange a dit est en train de s'accomplir. Donc, cela a permis à Marie de commencer à entrer dans l'esprit du miraculeux, à entrer dans l'esprit du surnaturel. Car le surnaturel qui est en nous ne se manifeste au dehors que si notre intelligence est renouvelée. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu surnaturel est déjà en notre esprit. Le Saint-Esprit qui est plus puissant que celui qui est au dehors est en nous. Mais pourquoi nous ne manifestons pas? Deuxième chose, lorsqu'à 12 ans, Jésus est né à 12 ans, et avant 12 ans, Marie a encore vécu le miraculeux lorsqu'elle est partie chez sa parente Élisabeth. Et dès qu'elle est arrivée, et dès qu'elle a salué Élisabeth, et qu'Élisabeth a entendu simplement les paroles qui sont sorties de la bouche de Marie, et Élisabeth a été remplie de l'Esprit Saint, et que s'est passé, l'enfant qui était dans son sein a commencé à tressaillir. Et Élisabeth dit, sans avoir su au préalable que Marie était enceinte, elle a commencé à bénir, elle dit, heureuse celle qui a cru à la parole du Seigneur, car ce qui lui a été dit s'accomplira. Donc, nous voyons ici, Marie a commencé à grandir, donc dans l'atmosphère de la parole de Dieu. Elle a vu la parole de l'ange s'accomplir. Et elle voit maintenant, elle arrive chez sa parente Élisabeth. Elle voit que sa parole Élisabeth est saisie par le Saint-Esprit. Et elle aussi, elle proclame une parole, une parole. Et Élisabeth de décrire à Marie, lorsque j'ai entendu les voix de ta parole, ta voix, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli. Donc, cet enfant a reconnu l'enfant qui est dans ton sein. Quelque chose s'est passé dans le surnaturel. L'enfant a tressailli. Le prophète de Dieu a tressailli. Parce que la visite, ta visite n'est pas une simple visite, car l'enfant qui est dans ton sein est un enfant spécial et le prophète qui est dans mon sein a reconnu. Donc, le Saint-Esprit, par cette relation, ça s'est passé. Donc, ça c'est, Marie a grandi dans cette atmosphère. Et nous continuons. Et à 12 ans, quand Marie et Joseph sont allés pour adorer à Jérusalem et que, ayant été négligents, ils ont abandonné le petit Jésus derrière, l'enfant de 12 ans, et s'étant aperçus plus tard qu'il n'était pas là, ils l'ont cherché, ils sont revenus à la source au temple. Et ils ont trouvé Jésus, cet enfant de 12 ans, assis avec les docteurs de la loi d'Israël et émerveillait ces docteurs-là, les émerveillait un enfant de 12 ans, émerveillait ces docteurs d'Israël, et Marie a dit à Jésus, « Nous te cherchons, ton père et moi. » Et Jésus a dit, « Pourquoi vous inquiétez? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Mais cette parole-là, pour une femme comme Marie, qui a entendu de la bouche de son enfant de 12 ans, les affaires de son père, vous croyez qu'elle n'a pas demandé à Jésus quel père et ensuite quelles affaires? La Bible, il est écrit dans la Bible que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, si on voulait le mettre là-dedans, le monde entier ne pourrait pas contenir. Donc la Bible est une simple clé USB de Dieu. Dans la clé USB, écoutez frère, il y a des choses que vous lisez. Ne laissez pas votre pensée religieuse commencer à aller quand vous entendez certains noms, commencer déjà à grincer des dents. La Bible, vous la transportez aujourd'hui, c'est un résumé de tout ce que Jésus a pu faire. Et c'est comme la clé USB. Une petite clé, mais elle contient, si vous voulez la mettre en page, c'est un gros livre que vous avez, mais la clé USB, elle est transportable par Dieu intelligent. Si Dieu laissait une Bible qui pesait des tonnes et des tonnes, personne ne s'en servirait. Donc Dieu a réduit cela, mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous le lisez, le Saint-Esprit amplifie les versets bibliques. Le Saint-Esprit les amplifie. Et alors, vous commencez à comprendre qu'à travers ces écritures noires et blanches, il y a les paroles esprit et vie dans la parole. Et les paroles esprit et vie, l'esprit peut se comprimer comme il vient rentrer en moi sans aucun problème. Quand nous comprenons ces vérités-là, nous commençons à réaliser. Donc, Marie, maintenant, elle voit ce jeune homme de 30 ans qui est rempli du Saint-Esprit. Marie était au baptême avec les autres disciples, avec Jean-Baptiste. Tous étaient là. Ils ont vu le ciel s'ouvrir. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Ils ont entendu par la bouche de Jean-Baptiste que le Père a dit, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ils ont vu la gloire de Dieu descendre. Et devant cette situation, le Saint-Esprit parle à Marie. Elle se tourne vers Jésus. C'est le premier élément. Le deuxième élément, du moins, le premier but du miraculeux, c'est pour glorifier Dieu et que ceux qui sont autour de vous commencent à croire que Dieu est réel et que Dieu est vivant. Commencent à être interpellés par ces signes de Dieu. Ces signes qui vont les amener à réfléchir, à entrer en eux-mêmes pour savoir que Dieu n'est ni mort, que Dieu n'est ni impuissant, que Dieu est réel. Et même les disciples de Jésus ont commencé à croire en lui. Ils ont commencé à avoir confiance en lui. Et dans la deuxième chose, c'est que Marie, pour que le miracle se passe, il faut d'abord, bien-aimés frères et sœurs, que vous identifiez le besoin réel du miracle. Et ici, le besoin réel du miracle est bien, bien précisé. Le vin ayant manqué. Très souvent, les gens ne voient pas de miracle dans leur vie parce qu'ils ont des simples désirs. Ils n'ont pas de besoins réels. De toute manière, si Dieu n'agit pas, je peux me débrouiller de l'autre côté. Si Dieu n'agit pas, je peux m'en sortir de l'autre côté. En ce moment, Dieu n'agit pas parce que la gloire, je dis que le miracle est toujours la gloire de Dieu. Si Dieu n'est pas glorifié par quoi que ce soit, le miracle n'a pas de sens. Ce sont des choses simples que je vous dis pour que vous puissiez comprendre. Je ne parle pas de la réunion d'église où la parole de connaissance est donnée, où les dons spirituels se manifestent. Ici, il ne s'agit pas de paroles de connaissance. Ici, il ne s'agit pas de dons spirituels. Il s'agit de relations dans votre famille. Et comment les choses peuvent se passer simplement, même si vous n'avez pas un seul don spirituel. La connexion avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit vont permettre que des miracles, des guérisons se passent dans votre famille, là, dans votre travail. C'est de ça que je vais parler ce soir. Et si vous êtes habitué à ça, alors frère, il y a beaucoup de choses. Bon, ceux qui sont avec nous savent, quand nous avons une facture à payer, et quand nous ne savons pas comment payer la facture, ils savent comment je fais. Je prends la facture, je m'en vais m'arrêter devant la chair, et je présente à Dieu. Papa, tu sais lire. Nous avons besoin de 400 millions. Tu sais bien que nous n'avons pas 400 millions. Tu as dit que toi, tu es notre Père, que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit que tu pourvois à nos besoins selon ta richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. Bon, je n'ai pas dit d'aller faire ça. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons été habitués avoir la simplicité. Le miraculeux n'est pas quelque chose non atteignable. C'est parce que Dieu est descendu pour que nous vivons dans le miraculeux. Dieu dit, voici les signes et les miracles. Mais dans la pensée chrétienne, le miraculeux, c'est toujours le paralytique qui se lève. Le miraculeux, c'est toujours l'aveugle qui voit seulement. mais elle est dans le domaine matériel, et dans le domaine familial, et dans le domaine financier, et dans le domaine professionnel. Là, vous opérez dans le naturel et vous laissez Dieu de côté. Dieu est l'auteur du naturel comme il est l'auteur du spirituel. Le miraculeux, ce n'est pas seulement pour les malades. Ce n'est pas seulement quand les gens sont malades. C'est chaque aspect de votre vie. Même la nouvelle création, même naître de nouveau, c'est le plus grand miracle. C'est ça que Jésus, cet enseignement de ce premier des miracles est important. Il est important parce que il enlève l'aspect charismatique de notre vie et nous montre la simplicité de la parole de Dieu qui peut opérer dans nos vies des miracles si nous sommes attachés à cette parole-là. Donc, deuxième élément, quand nous visons le but, c'est glorifier Dieu. Deuxième chose, nous devons discerner quel est le besoin réel. Quel est le besoin réel de miracles? Quel est le besoin réel de ma vie? Et ici, le besoin réel, c'était que le vin a manqué. Il n'y a plus de vin. Et il n'y a plus de vin à la portée de main. C'est comme lorsque Jésus et ses disciples étaient dans le désert et que les foules ont suivi Jésus. À un moment donné, ils étaient fatigués. Et ça fait 3 jours qu'ils sont derrière avec Jésus. Ils sont épuisés. Et Jésus dit à ses disciples, donnez à manger à ces hommes-là. Donnez-leur à manger. Je vous pose la question. Comment Jésus peut-il dire à ses disciples de donner à manger à plus de 5000 personnes, 7000 personnes plus tard, s'ils n'ont pas la chose? Parce qu'il y a les dons spirituels. Dieu agit de plusieurs manières. Mais c'est Paul qui nous a montré comment les dons spirituels agissent. C'est lui qui nous a montré cela. Mais Jésus est là avec ses disciples. Les disciples sont là. Ils ont calculé, certains ont dit, avec 200 deniers, il est impossible de nourrir cette foule-là. Et de toute manière, il n'y a aucune boulangerie à côté. Comment peux-tu nous dire alors, à nous, qui ne sommes pas boulangers, de nourrir cette foule-là? Et tu dis, donnez-leur vous-même à manger. Je vous pose la question. Est-ce que c'est censé ça? Si le miraculeux n'était pas à la portée des disciples, comment Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger? Si le miraculeux n'est pas quelque chose qui est à la portée du chrétien, comment Jésus va vous adresser à vous en vous disant, allez et faites de toutes les nations des disciples? Comment un homme peut aller faire des nations des disciples? Comment un homme peut aller et prêcher la bonne nouvelle et les signes, les miracles le suivent? Comment? Si ce n'est pas possible, pourquoi Jésus va nous demander des choses impossibles? Pourquoi il va nous demander des choses impossibles? Il y avait un besoin dans le désert. C'est que les gens avaient faim. Ils n'avaient pas mangé. Il y a un besoin ici à Cana en Galilée. C'est que le vin a manqué. Jésus n'a pas fait un miracle comme on le pense de façon mystique. Il a fallu qu'il dise, vous devez les nourrir. Cela veut dire que la solution est là. Au milieu de vous, la solution est déjà là. Troisième exemple, c'est dans le livre de Deuxième Roi. Quand le prophète Élisée est parti chez la veuve, et que cette veuve-là, on était venu pour prendre ses enfants pour en faire donc des esclaves, elle était veuve, son mari est mort, donc ses enfants étaient allés être vendus pour payer donc sa dette. La créance, du moins, c'est de ce monsieur. Alors, Élisée a dit à la dame, je suis prophète, c'est vrai, mais je ne peux rien faire. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Parce qu'elle pense que le prophète a un pouvoir de faire des miracles sans sa participation, sans sa collaboration. Et souvent, nous avons utilisé abusivement du mot souveraineté de Dieu. Si Dieu est souverain quand il a commencé les choses, mais dès le moment où Dieu vous a dit, voici ce qu'il y a à faire, il y a tout un processus maintenant qu'il faut suivre. Dès le moment où il vous a dit, voici comment les choses vont se faire, sa souveraineté n'est plus en première place. Il vous dit, il vous transfère à vous la responsabilité de travailler avec lui. Et c'est pourquoi on dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour nous donner des pains. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour nous donner des briques. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour nous donner les choses dont nous avons besoin. Dieu a besoin simplement des collaborateurs. Et le prophète dit à cette dame, vous savez, comme je l'ai dit, si vous avez une seule, je vous ai dit ça en octobre quand j'étais venu là, si vous avez une seule manière de penser comment Dieu doit agir, vous serez plus dans les pièges. Si vous pensez que Dieu doit agir pour faire de cette manière-là, quand Dieu va venir de cette manière, vous allez manquer. Dieu agit dans la diversité. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une bouteille. Vous ne pouvez pas dire, Dieu fait des miracles de cette manière, et s'il ne le fait pas comme cela, nous ne croyons pas. C'est ce qui a amené les dénominations. Les dénominations se sont basées seulement sur une manifestation que Dieu a utilisée chez quelqu'un pour faire, et ils ont bâti autour de ça, donc, toute leur doctrine. Ils n'ont pas laissé à Dieu la liberté d'agir. Quand Élisée a dit à la femme a regardé dans sa maison et dit, mais prophète, mais si j'avais quelque chose, je ne vous demanderai pas, je ne vous dirai pas de m'aider. Mais brusquement, elle s'est rappelée que Dieu ne fait rien sans rien. Dieu ne fait rien sans rien. Elle a regardé et dit, bon, ok, il y a ce petit flacon d'huile que mon mari utilisait pour bénir les gens. Et Élisée lui dit, depuis longtemps, le miracle est dans ta maison. Elle dit, mais comment ça? Le miracle dans ma maison? Il dit, oui, ce petit fiole d'huile-là. Le miracle va venir de là. Cette petite bouteille d'huile d'onction là, elle est capable de nourrir toute ta famille, de te sortir des temps de la famine et de te bénir. La femme ne croyait pas de ses yeux. Élisée lui dit, donc, va chercher des vases vides au dehors. Parce que le miraculeux ne se passe pas s'il n'y a pas un besoin réel. Il n'y a pas de miracle sans un besoin. Et le besoin de la dame, elle est endettée. Et ses enfants seront esclaves. Il faut qu'elle arrive à payer sa dette. Et pour cela, Élisée lui dit, pour que le miracle se passe avec cette petite bouteille d'huile-là, il faut que tu aies des vases vides. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas de miracle? Parce qu'ils ne remplissent pas, ils ne sont pas prêts à remplir la vie des vases vides de ce monde-là avec l'onction qu'ils ont déjà dans leur cœur. L'onction est déjà en vous. La présence du Saint-Esprit est en vous. Le miracle est en vous. Il y a assez d'amour en vous. Il y a assez de paix en vous. Mais Dieu dit, ceux du dehors sont des vases vides. Dieu dit, allez chercher ces vases vides-là et déversez votre vie, déversez votre bonté, déversez votre amour dans ces vases vides. Vous vous fermez, mais si le flot coule, ça va couler en gaspillage. Qui est en face de vous pour recevoir l'amour? Qui est en face de vous pour recevoir le miracle? Qui? Le miracle est en faveur d'un autre homme. Il vient de Dieu par un homme au profit d'un autre homme. C'est ça le miracle, toujours. Mais un miracle pour un miracle, ça n'existe pas. Miracle pour miracle, ça n'existe pas. Donc, vous voyez ces trois exemples-là. Ils avaient besoin de pain pour qui? Pour la foule. Elle avait besoin d'argent pour faire quoi? Pour que ses enfants ne soient pas esclaves. Cécile avait besoin de vin, pourquoi? Pour que le mariage ne se termine pas en queue de poisson et qu'il y ait la tristesse. Toujours, il faut d'abord discerner le besoin. Il faut discerner le besoin qu'il y a chez autrui. Et quand vous allez discerner cela, la troisième chose va venir. Est-ce que nous comprenons? C'est ça le principe du miraculeux. On ne fait pas le miracle pour avoir une renommée. On ne fait pas de miracles, Dieu n'en fera même pas. On ne fait pas de miracles parce qu'on a la foi. Notre foi ne peut pas faire n'importe quoi. Si la foi, on pouvait l'utiliser pour n'importe quoi, les hôpitaux de ce monde seraient vidés par les hommes de foi. Alors donc, bien-aimés frères et sœurs, il faut bien comprendre le principe du miraculeux. Nous revenons à notre texte, nous voulons l'enrichir. Nous avons pris le texte de Jean 2, nous voulons l'enrichir au fur et à mesure qu'on avance. On l'enrichit. Parce qu'on l'enrichit des principes que Dieu nous montre. Premièrement, Tout miracle, c'est pour la gloire de Dieu. Dans Acte 8, on peut le voir. Dans Acte 8, verset 5 et verset 6, jusqu'au verset 13, quand Philippe est arrivé en Samarie, quand il a commencé à prêcher, on voit les mêmes termes encore. On voit les mêmes termes avec Philippe. Acte 8, on trouve les mêmes textes, les mêmes thèmes et les mêmes références. Philippe est arrivé en Samarie et il a commencé à prêcher Christ. Et quand il a prêché Christ, il est dit au verset 12 et 13, verset 12 et 13, que quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, Siméon lui-même crut après avoir été baptisé. Vous voyez bien, ils ont cru. Ils ont vu la gloire de Dieu et ils ont cru. Jésus dit, nous montre dans Jean 2, il a manifesté sa gloire et ses disciples ont cru. Philippe a manifesté la gloire de Dieu et les Samaritains ont cru. Et même Siméon le magicien a cru. Quand la gloire de Dieu est manifestée, ça amène les hommes horizontalement à croire. Quand Dieu est élevé par le miraculeux, alors les hommes qui sont à votre niveau commencent à croire en ce Dieu-là. Et ensuite, dans Acte chapitre 9, verset 31, c'est Pierre qui arrive à Lystre. Pierre arrive à Lystre, il trouve là-bas un homme qui était boiteux, et quand il a commencé à parler à cet homme-là, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer à Lystre. Verset 31, il est écrit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église ne s'accroissait pas à travers les concerts, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça que nous voulons que nos églises croissent. C'est pourquoi quand ils viennent, ils sont déconcertés tout le temps. Ceux qui viennent par le concert seront déconcertés. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Écoutez, le verset 35, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Le miraculeux, frère, si c'est pour votre gloire, c'est difficile. Mais si c'est Dieu qui conduit les choses et Dieu veut glorifier son nom, alors il va le manifester. Et alors, ceux qui sont autour de vous vont croire. Ils vont croire. Ça va les convaincre que leur Dieu est réel. Ça va les convaincre que Dieu est au milieu d'eux. Et ça, c'est dans la famille. Tout ça, c'est dans la famille. Ce n'est pas des croisades d'évangélisation. Ce n'est pas des grandes croisades où on réunit. Le problème, frère, c'est que nous ne comprenons pas les croisades d'évangélisation parfois. Et malheureusement, vous savez, avec aujourd'hui les caméras et la télévision, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous qui sommes sur les champs missionnaires d'Afrique ou dans les autres pays où les croisades d'évangélisation se passent, parfois, c'est des larmes que nous versons. Les caméras vont saisir 2 ou 3 guérisons, 4 ou 5 miracles. Mais en ce moment-là, les milliers de gens qu'on pousse dans les roulettes, les caméras ne prennent pas ça. Les milliers de sourds qu'on ramène à la maison, les milliers d'aveugles qu'on tire pour amener à la maison, on ne nous montre pas ça. On nous montre 3 ou 4 miracles. Un grand homme de Dieu américain est venu en Afrique. Et ils ont fait sortir tous les malades. Ils ont amené les malades des hôpitaux. Non, que l'homme de Dieu va venir, il va faire des miracles, il va faire des grandes choses. Quand il a fini sa campagne, il y avait plusieurs cadavres qui sont restés sur le terrain. Les journaux, RFI a saisi ça, a commencé à balancer cela avec des preuves. Il dit, mais voilà, vous faites sortir les gens des hôpitaux. Et il y a eu quelques guérisons. Les gens ont crié pour ces guérisons. Mais tout le monde a fermé les yeux sur les cadavres qui jonchaient sur le sol. Et les journalistes nous ont rappelé que ce n'est pas les quelques 10-15 qui ont été guéris qui comptent, mais ceux qui ont perdu la vie. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour les croisades d'évangélisation. Ce n'est pas pour les croisades. C'est pour nous fortifier nous-mêmes dans nos maisons. C'est pour voir comment Dieu agit. Quand tu es habitué au miraculeux de Dieu dans ta vie, alors ta foi s'affermit et tu ne chercheras plus rien d'autre que la gloire de Dieu. Ça, c'est pour nous encourager, nous qui sommes ici, en tant que chrétiens, en tant que membres d'une famille, à pratiquer ces choses-là pour glorifier le nom du Seigneur. Pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, nous voyons ici, Pierre s'en va à Lydde, toute la ville se convertit. Donc, le miracle a pour but. C'est un moyen pour attirer les cœurs des hommes à Dieu. C'est pour convaincre les hommes. Quand, dans votre famille, les enfants voient le miraculeux, mais leur cœur s'affermit et dit, mais le Dieu de papa est réel. Le Dieu de maman est réel. Les enfants, ils commencent à se poser des questions. Comme mes enfants, quand ils étaient petits, me disaient, ils disaient, ah, attention, hein, je les entendais, faut pas faire des choses, papa voit les choses. Hein. Quand il prie dans sa chambre, il voit tout ce que tu fais. Si tu fais ça, il va voir ça. Donc, pourquoi? C'est-à-dire qu'ils avaient une crainte, parce que parfois je les prenais à côté, je leur disais, mais tu as fait ça, 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 ça. Mais pourtant, je n'étais pas là-bas. Donc, ces choses-là, ce n'est pas pour des hommes extraordinaires. Parce que souvent, on croit que le miraculeux... Non, le miraculeux, c'est ce que Dieu a amené. C'est ce que Dieu fait. C'est les actes de Dieu qui sont appelés des miracles pour les hommes. Parce que ça dépasse les lois naturelles et physiques. Ça dépasse les lois chimiques. C'est pourquoi on l'appelle miracle, simplement. Quand le Seigneur m'a dit, construis... l'église de 3000 places en 3 mois sans emprunt bancaire. Mais ma foi avait monté à un moment donné. Et c'est pourquoi Dieu m'a dit cela. Quand les gens ont commencé à voir comment on a construit le premier bâtiment sans emprunt, et ils ont vu comment Dieu a agi en 6 mois. Et nous parlions déjà du bâtiment de 3000 places. Nous parlons de cela, nous disons de prier. Nous avons prié. Mais un jour, le matin, quand je me réveille pour louer Dieu, Dieu me dit, va réunir le comité d'église et dit que le bâtiment de 3000 places doit commencer. Et vous devez le faire en 3 mois. Un bâtiment de 3000 places en 3 mois. Les ingénieurs qui étaient avec moi m'ont dit, pasteur, c'est pas possible. Il dit le génie civil même, c'est-à-dire le béton qu'on doit couler tout en 3 mois. J'ai dit, mais Dieu m'a dit c'est 3 mois. Et puis ils m'ont dit maintenant, voici le devis. Quand ils m'ont donné le devis, par entreprise, pas en entreprise, hein, simplement, plus de 450 millions. Mais dans notre compte, il n'y a même pas 10 millions. Ils m'ont dit, pasteur, il y a l'argent, j'ai montré le ciel. Ils disent, on va ouvrir la banque du ciel. Quand ils sont sortis, je les voyais derrière là, ils me regardaient, ils ont dit, cette fois-ci, le pasteur a dû... Cette fois-ci, là, non, c'est sûr, hein. Alors, pour que je sache que c'est le Seigneur, même moi-même, écoutez, frère, si je voulais raisonner après avoir dit ça, là, j'allais prendre ma valise et disparaître. Je n'ai pas raisonné. J'ai été habitué à la voix du Seigneur tout doucement, dans les petites choses. Dans les petites choses, j'ai appris à discerner que c'est lui qui est là. Et quand il dit quelque chose, il va veiller dessus. Et quand il a dit de faire cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé le premier bâtiment et j'ai mis des tentes. Les gens ont dit, oh, celui-là, il est devenu fou maintenant. Il casse un bâtiment sans avoir l'autre bâtiment. Et si jamais ça ne marche pas, c'est fini pour nous. On sera sous des tentes. Mais en 3 mois, frère, en 3 mois, sans emprunt bancaire, sans rien, l'argent est venu. Ce n'est pas venu d'ailleurs, ce n'est pas venu d'Europe, c'est venu au milieu de nous. J'ai pris ma valise, j'ai commencé à voyager dans les pays voisins pour prêcher l'évangile. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais faire le miracle. Dans un pays qu'on dit pauvre là, je ferai le miracle. On n'a pas lancé, on n'a pas fait de pression. Mes frères, les plus pauvres, tout le monde, en 3 mois, le bâtiment était inauguré, équipé totalement. La tour de prière, même chose. Et aujourd'hui, l'État nous a accordé la télévision. Une télévision, ça coûte très cher. On va, On va faire ça en avril. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes habitués tout doucement au miraculeux de Dieu. Nous sommes habitués à entendre la voix de Dieu. Nous avons vu des besoins réels et on les a présentés donc devant le Seigneur. Et nous sommes attendus maintenant à ce que Dieu intervienne. Et là, Marie dit à Jésus, le vin a manqué. Le vin a manqué. Le besoin est identifié. Le vin a manqué. Troisième chose, pour que nous allons dans le processus du miraculeux, maintenant, c'est connaître la source, connaître l'auteur du miraculeux. Et alors, c'est là qu'on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure là, Marie avait un discernement clair, que le besoin qui était là, le temps pour Jésus était venu, elle n'a jamais vu Jésus faire un miracle, mais elle savait, parce qu'elle a vécu elle-même avec cet enfant-là. D'abord la conception de l'enfant, ensuite quand l'enfant a grandi, et l'enfant maintenant qui est devenu un jeune homme à 30 ans, il a été baptisé. Elle a vu comment ce jeune homme-là, cet enfant a grandi, devenu un jeune homme. Elle a vu la parole de Dieu s'accomplir dans sa propre vie. Elle a vu la gloire de Dieu se manifester. Alors Jésus s'est adressé. Elle avait tellement confiance que Jésus est ce qu'il est. Elle sait que Jésus est ce que l'ange a dit qu'il est. Ce n'est pas une simple maman. Ce n'est pas une maman sentimentale qui s'est adressée. Non! C'est un disciple. Le premier disciple de Jésus, c'est Marie. Elle a vu là qui est ce Jésus-là. Elle s'adresse au maître. Le foyer est en péril. Dieu est l'auteur du mariage. C'est Dieu qui a amené Ève à Adam. Dieu est l'auteur du mariage. Et elle regarde à travers cet homme qui est assis, dont l'ange a révélé que c'est le Fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'il est l'auteur du mariage. Et elle voit que ce mariage est en danger. Elle s'adresse à la bonne personne. Elle s'adresse à la source du mariage. Elle s'adresse à l'auteur du mariage. Alors que Jésus avait été invité par les autres comme un simple invité. Pas comme l'auteur du mariage. Les autres l'ont invité parce qu'il est un jeune homme sérieux du village. Ils l'ont invité non pas pour participer à quoi que ce soit. Il était assis dans son coin. Mais quand Marie regarde la situation et Marie regarde Jésus, la révélation est complète. Voici l'auteur du mariage. Et le mariage est en difficulté. Elle s'adresse à qui? À l'auteur du mariage. Non seulement Jésus est l'auteur du mariage, il est aussi l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. Elle s'adresse à la bonne personne. Pour résoudre le besoin qui est là, elle s'adresse à la bonne personne. Quand votre besoin est là, besoin de guérison, besoin de délivrance, vous vous adressez à qui? Quand vous avez discerné le besoin de votre vie, de votre famille, de votre travail, à qui vous adressez-vous? Elle s'adresse à Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est Dieu incarné. Elle sait que cet homme qui se tient là est plus puissant que toutes les situations qui sont autour. Elle a réalisé qui il est. La plupart des chrétiens parlent de Jésus sans réaliser qui il est. Nous sommes devenus habitués à Jésus et au nom Jésus que son nom ne produit plus rien. Chaque phrase est mêlée du nom Jésus. Et c'est ce qui fait que les situations ne changent pas parce que nous n'accordons aucune valeur, aucune autorité au nom Jésus. Nous n'avons pas Jésus physique, mais il nous a donné son nom. Son nom est aussi puissant que le Jésus physique. Mais quand vous le prononcez, quand vous causez, tout le temps c'est Jésus qui est Jésus, le nom Jésus vient à votre bouche 10 fois, 15 fois. Cela veut dire que vous ne savez pas de qui vous parlez. Ce n'est pas votre petit camarade de lycée. Si on a sentimentalisé trop Jésus, alors en ce moment, quand on a besoin de lui, ça ne marche plus. Trop de chrétiens l'ont sentimentalisé, ils l'ont rendu leur petit camarade. Jésus était là physiquement avec Marie, mais nous n'avons pas Jésus physique. Nous avons son nom qui le remplace. Le nom Jésus, ce n'est pas une appellation, c'est une identité. Et aujourd'hui, si nous ne sommes pas conscients de ça, frères et sœurs, nous avons des difficultés. Elle s'adresse à Jésus, nous nous devons nous adresser à Jésus. Regardons dans Acte 3, nous allons comprendre cela. Acte 3, ce Pierre qui n'avait pas connu ce Jésus-là, à tel point qu'il a régné, regardez ce Pierre maintenant dans Acte 3. Pierre a eu la révélation par le Saint-Esprit. Pierre a rempli le Saint-Esprit. Pierre a découvert que Jésus ou son nom avait une valeur. Il ne s'amuse plus à ce nom-là. Il a connu Jésus physiquement. Mais maintenant, ce Jésus physique n'est pas là. Et ce Jésus a dit qu'il va leur laisser son nom. Et qu'en son nom, tout ce qu'ils demanderont, il va le faire. Donc, il a su que son nom est une procuration qui leur a été donnée. Et une procuration a la même valeur que la personne physique. Une procuration au tribunal marche. Une procuration à la banque marche. Donc, Jésus nous a donné son nom comme une procuration. Et c'est pourquoi, devant ce paralytique-là, Jésus dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, qu'est-ce que Jésus a? Je vous ai dit que si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne pouvez pas opérer dans le miraculeux. Premièrement, vous devez savoir ce que vous êtes. Deuxièmement, vous devez savoir ce que vous avez. Troisièmement, vous devez savoir ce que vous pouvez faire. Pierre dit, je n'ai pas d'argent, là je suis sûr. Je n'ai pas d'or, là je suis sûr. Mais je suis sûr d'une seule chose, j'ai le nom de Jésus avec moi. J'ai ce nom dans toute sa puissance, dans toute son autorité, dans toute sa gloire. Réfléchissez, frère. Le nom Jésus, vous le prononcez. Quand vous le prononcez, il n'y a aucun tremblement. Il n'y a aucun respect. Les démons ayant su que vous ne croyez pas en ce nom-là, quand maintenant vous avez un problème, vous dites au nom de Jésus, aucun démon ne bouge puisque vous ne croyez pas vous-même. Ne me dites pas, quand je dis vous ne croyez pas là, je ne parle pas de croyance mentale. Quand les démons aussi croient au nom de Jésus, ils tremblent. Je ne parle pas de ça. Je crois à la foi qui active, la foi qui agit. La foi qui agit. Je ne dis pas, certains sont offensés en disant, mais moi je crois en Jésus. Mais tu crois en Jésus, rien ne se passe. Pierre dit, je n'ai pas d'argent, mais j'ai le nom Jésus. Il dit, en ce nom-là, lève-toi. Et quand ils les ont arrêtés, ils les ont mis en prison. Et le Sanhédrin leur a dit, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Donc le nom et le pouvoir sont identifiés. Le nom est un pouvoir. C'est pourquoi au nom du président de la République, on peut vous arrêter. C'est pourquoi au nom, si vous présentez un chèque à la banque au nom de quelqu'un, mais quand on regarde ce nom, quand le caissier regarde ce nom-là, si ce nom, par rapport à la somme qui est dessus, il voit que ce nom-là n'est pas si puissant, il rejette votre chèque. Parce que ce nom n'est pas puissant pour avoir cette somme dans la banque. C'est ça. Le banquier vous regarde et il commence à dire à la police, il y a un escroc qui est là. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu avec un chèque de 3 millions de dollars, alors que le nom qu'il présente là, ce nom n'a pas 3 millions de dollars. C'est pourquoi vous devez savoir, quand vous allez à la caisse de Dieu, quand vous allez à la banque de Dieu, quand vous voulez aller prendre ce nom pour agir, vous devez savoir qui se tient derrière ce nom. Qui se tient derrière le nom Jésus. La Bible dit par la bouche de Paul que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou, tout pouvoir plie devant ce nom-là. Et toi, tu ne crois pas. Tout pouvoir, tout ce qui a nom dans les cieux. Le cancer est un nom. Le sida est un nom. La maladie est un nom. Il dit que tous ces noms-là plient devant le nom Jésus. Tous ces noms que vous connaissez là plient. Le vent est un nom. C'est pourquoi quand Jésus a dit au vent, vent, calme-toi, c'est calmé. La mer est un nom. Quand il a parlé à cela, mais aujourd'hui, nous avons le même pouvoir. Et nous l'avons vu se manifester. Nous enrichissons notre texte de Jean 2. On l'enrichit. Quand vous étudiez un texte, il faut l'enrichir avec des textes qui viennent Ne lisez pas seulement, c'est fini. Ça, c'est une lecture verticale. Lisez-la et cherchez à voir de quoi on parle. Et Pierre a dit, sous le ciel, il n'y a aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lequel pour être sauvé. Le mot sauvé, mon frère, est dans le mot grec. Si vous voyez le mot qui est là-bas dans Acte 4, là, c'est écrit sozo. Sozo ne veut pas dire pour aller au paradis seulement. Sozo veut dire au moins sept choses. Délivrance, dans le nom de Jésus, il y a la délivrance, il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a le salut de l'âme. Il y a tout dans le mot sozo, S-O-Z-O. C'est ce mot qui a été utilisé par Pierre. Ce n'est pas pour aller au paradis. Sous le ciel, il y a un nom qui a été donné. Quand ce nom est provoqué, quand ce nom est invoqué, alors les différents aspects de sozo se manifestent dans votre vie. Mais si vous ne croyez pas à ce nom, on est trop habitué à ce nom. Habitué à ce nom. On le dit partout. On se salue avec ça. Jésus. Yo, Jésus. Ça ne marche pas. Un nom, quand on le prononce au ciel, les anges se prosternent. Quand on dit au ciel, tu as déjà vu le ciel? Dieu m'a montré l'enlèvement. Je viens en faire. Le ciel, quand on dit simplement Jésus, tout le ciel est en ébullition. Les anges courent, tout le monde ploie à genoux. Et sur la terre ici, quand on dit entre nous Jésus, c'est de la rigolade. Et vous voulez chasser les démons avec un nom dont vous n'avez pas donné une valeur? Ce nom est devenu le nom de votre petit copain? Vous croyez que les démons vont croire à ça? Marie, en regardant Jésus, a su qu'il est, il est capable. Il a la solution pour ce mariage. Il peut réparer ce mariage. Il est l'auteur du mariage. C'est pourquoi elle est allée vers lui. Et elle avait raison. Bien que Jésus ait dit, femme, tout le monde prend ce devoir-là. Les gens aiment ce qui est essentiel, ils ne disent pas ça. Ils disent, non, on va s'arrêter sur... Jésus a dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Les évangéliques aiment ça, pour discuter avec les autres. Vous arrêtez sur des choses secondaires. Parce que dans le langage de là-bas, on disait femme. C'était un élément de respect simplement. Ce n'est pas autre chose. C'est pas, on ne vous a pas dit ça pour combattre les gens. Que vous voyez, il n'a pas dit maman, il a dit femme. C'était un respect du Moyen-Orient. Comme chez nous, on ne dit pas le nom d'un papa ni le nom d'une maman. On ne dit pas ça. On n'appelle pas son mari. Hé, Jacques, viens ici. Non? Il y a un respect dans ça. On ne dit pas comme ça. Ne nous arrêtons pas à ce qui n'est pas important. Il y a une famille en péril. Un mariage en péril. Un mariage qui est en train de se détruire. Il y a une femme qui a reconnu l'auteur du mariage. Une femme qui a la foi que si cet homme-là intervient, le mariage sera restauré. Mais elle s'adresse à lui au sérieux. Elle n'a même pas écouté l'expression « femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas venue. » Elle a continué directement. Elle a dit « Écoutez, tout le monde a les yeux fixés sur Marie. » Elle dit « Ouais, cet homme-là. » Les gens disent « Oui. » On le connaît, c'est le garçon le plus sérieux du village. Elle dit « Non, ce n'est pas question qu'il est sérieux. » Le problème n'est pas qu'il est sérieux ou pas sérieux. Le problème est que on est en crise. On a un besoin. Il y a un problème qui est là. Si ce n'est pas résolu, le mariage, c'est fini. Tout le monde va se disperser. Ça sera la honte. Alors, je vais vous dire une chose. Faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est la quatrième chose. Marie met entre leurs mains une clé. Le premier disciple, c'est Marie. Faites. Il n'a pas dit discuter. Elle n'a pas dit raisonner. Elle n'a pas dit examiner pour voir si ça va, si ça vous convient. Elle dit simplement, faites. C'est dit, agissez exactement. Exactement comme il vous le dira. Faites ce qu'il vous dira. Pas plus, pas moins. C'est ça la clé. La clé du miraculeux est dans cette expression-là. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi nous devons faire ce qu'il nous dit? Ce qu'il nous dit, on appelle ça quoi? La parole. Donc, nous devons agir selon sa parole. Pourquoi? Nous devons agir selon sa parole. Parce que Jérémie 1, verset 12 nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur vos besoins. Le problème, beaucoup de gens ont des besoins, ils les présentent à Jésus. Mais ce n'est pas parce que tu as un besoin que Jésus va résoudre. Jésus ne résout pas les problèmes des larmes. Non, mon frère. Il n'a pas dit que Dieu regardera vos larmes et agira. Il est décrit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et dans Ésaïe 55, verset 10-11, il nous donne une très belle leçon de naturel, de spirituel. De même que la pluie descend du ciel et ne retourne pas sans avoir au préalable arrosé, fécondé, fait germer et donné de la semence au semeur, ainsi en est-il la parole de Dieu qui sort de sa bouche et qui ne revient pas sans effet, sans avoir accompli les desseins de l'Éternel. De même que la pluie, la neige ne sont pas descendues sur le sol français et ont laissé le sol français stérile. Et la pluie est retournée par le système de l'évaporation pour dire à Dieu, tu m'as envoyé sur le sol français, j'ai été incapable d'arroser le sol français, j'ai été incapable de féconder le sol, j'ai été incapable de donner aux Français la nourriture, le blé, j'ai été incapable. Si la pluie, qui est l'envoyé naturel de Dieu, ne peut pas dire ça, comment la parole de Dieu qui est envoyée va retourner à Dieu dire, tu m'as envoyé vers une vierge, je suis revenu sans effet. Quand la parole a été adressée à la vierge, la parole est retournée pour dire à Dieu, nous sommes venus et la vierge est enceinte. Frère, Dieu ne regarde pas à tes besoins, tu le dis. Maintenant, il va te dire, mon enfant, voilà ce que tu dois faire. Et dans le psaume 33, verset 9, ce qu'il dit, il quoi? Il l'accomplit. Ce qu'il n'a pas dit, il n'est pas tenu de l'accomplir. C'est pourquoi Marie n'a pas dit, bon, allez-y vers lui, demandez-lui si ça lui plaît, et il va voir vos larmes. Non. Marie dit, voyez bien, c'est ça le respect qu'elle a pour Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous dira. Si nous ne croyons pas cela, regardons, le même principe se trouve partout. Partout où Jésus a fait des miracles pour des individus, c'est par la parole. Il dit à Pierre, quand Pierre a échoué dans sa pêche, Jésus s'en va et emprunte la barque de Pierre. Il montre à Pierre comment on pêche les gens. Il pêche, il a du résultat dans sa pêche. Et puis il se retourne, il dit à Pierre, allez au milieu du lac, jetez vos filets pour pêcher. Pierre a commencé à argumenter, il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, n'est-ce pas Jean? Jean dit oui. N'est-ce pas André? Il dit oui. N'est-ce pas Jacques? Ils ont dit oui. Quand vous argumentez, Jésus s'éteint. Nous avons travaillé toute la nuit dans cette rivière-là, dans ce fleuve-là, dans cette mer-là, il n'y a aucun poisson. Mais écoutez, de même que Jésus est l'auteur du mariage et il peut sauver le mariage, de même que, avec Pierre, Jésus est l'auteur des océans et des poissons. Alors, s'il dit quelque chose, écoutez frère, il est l'auteur des oiseaux, ce n'est pas, s'il dit de jeter le filet, c'est que sa parole a déjà produit des poissons. Il est l'auteur de la mer et des poissons. C'est lui qui a parlé dans Genèse 1 là, il était là-bas. voulons les miraculeux, nous ne suivons pas les principes du miraculeux. C'est pourquoi on ne les voit pas. Et Pierre, de se raviser, il arrête, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Vous entendez? Pourtant, Pierre était un spécialiste de pêche. Il est né pêcheur, son grand-père est pêcheur, mais il n'a jamais vu un pêcheur du genre de Jésus. Il ne savait pas que ce jeune homme qui était là était l'auteur de la mer, était l'auteur des poissons, et qu'il était capable, quand on échoue dans la pêche, de vous donner une pêche miraculeuse. Quand votre mariage a échoué, l'auteur du mariage est le seul capable de le réparer. Allez avec lui. Prenez les morceaux de votre mariage, allez le donner. Il va colmater. Il va colmater. Comme cette histoire que j'ai lue sur ce prince de cette maison, ce roi qui avait une grande orgue, c'est un piano, je ne sais pas. J'ai lu ça plusieurs fois, je ne me rappelle plus bien de l'histoire. Mais l'orgue est tombé en panne. On a cherché des gens pour réparer l'orgue de tous les côtés. Personne n'a pu réparer l'orgue. Et voici qu'un jour, vient devant la porte du château, un monsieur mal habillé, un monsieur qui n'est pas vraiment bien, et il se présente aux gardes. Il dit, est-ce que je peux voir l'orgue? Les gardes l'ont regardé, ils l'ont regardé. Ils ont dit, d'où venez-vous? Il dit, non, je veux voir l'orgue seulement. Et comme la princesse pleurait à cause de son orgue, on est parti au roi, il y a un monsieur là qui veut voir l'orgue. Mais le roi a dit, mais il n'y a pas de problème, puisque les gens sont venus, les grands spécialistes sont venus, ils n'ont pas pu réparer l'orgue. Laissez-le entrer, puisque ma fille pleure. Le monsieur est rentré, on l'a amené, et ils l'ont négligé, et il est parti s'asseoir là où il y a l'orgue. Au bout d'une heure, le château a commencé à être rempli par la belle musique. Tout le monde a couru. Le monsieur, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il dit, non, c'est moi qui ai fabriqué cet orgue-là. Je suis l'auteur de l'orgue. C'est ça, il est l'auteur de votre vie. Il est l'auteur. C'est ça le miraculeux. Si vous ne retournez pas à la source, si vous ne retournez pas à l'auteur, si vous ne retournez pas à celui qui est l'auteur de la foi, l'auteur du miracle, frère, vous avez beau prier, vous avez beau crier, rien ne se passe. Car tout, il a dit, tout a été créé par lui, pour lui et avec lui. Tout vient de lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est ça le premier des miracles. Il nous montre les principes, comment ça marche. Mais aujourd'hui, nous sommes déformés, nous sommes devenus des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. On commence à... Non, regardons d'abord quel est le premier des miracles. N'allons pas d'abord trouver dans 1 Corinthiens 12 où on parle que Dieu donne les dons. On ne parle pas de dons ici. Il y a des gens de chez moi qui n'ont jamais parlé en langue, qui n'ont jamais fait de prophétie. Il les connaît, des prophétesses, maman et Rebecca. Ils s'assoient avec vous, la présence des anges sont là. Elle ne parle pas en langue, mais ce qu'elle voit, elle est partie au ciel comme des fois. 12 fois, elle a vu Élie, elle a vu Marie, elle a vu Jésus. 12 fois, tout le monde la connaît. Tous les événements du pays, elle les révèle. Elle ne parle pas français, elle est de mon village. Une chrétienne, quand vous êtes assis à côté d'elle, vous pouvez pleurer, parce que la présence du Saint-Esprit est forte. C'est cela, frère. Vous n'avez pas besoin d'être un grand pasteur pour voir le miraculeux. Le miraculeux pour chacun. Nous sommes tous candidats au miraculeux dans nos familles. Et c'est ça ici. La chose se passe, Jésus n'est même pas connu encore. Il n'a même pas commencé son ministère. Et, quatrième chose, quand Jésus et Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quatrième chose, on voit ici, bien-aimés frères et sœurs, cinquième chose maintenant, la clé nous a été donnée, et Jean 2, on retourne dans Jean 2, on va le lire, Jean 2, versets 7 et 8. Versets 7 et 8, Jésus va entrer en action. Jésus leur dit, voyez bien, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. Ça, c'est la clé est là, mais une clé qui n'est pas utilisée n'est pas utile. Beaucoup de gens ont leur foi, mais qui ne l'utilisent jamais pour obéir à Dieu. Ils ont des connaissances, oui, Dieu est bon, Dieu est puissant. On ne te demande pas ça. Il dit, faites ce qu'il vous dira. On n'a pas de réfléchissez à ce qu'il vous dira. Et effectivement, Jésus a ouvert la bouche pour dire, puisez et l'eau et remplissez d'eau ces vases. Je vous ai dit avec la femme qui a eu le miracle avec Élisée, si vous n'avez pas de vase, comment le miracle va se passer? Jésus dit aussi, il faut des vases d'abord. Il faut qu'on remplisse d'eau ces vases. L'eau, c'est la parole. Il faut d'abord que l'eau de la parole remplisse votre... Les vases, c'est quoi? C'est votre vie. Si votre vie n'est pas remplie de vases, le miracle ne peut pas avoir lieu. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau. Comme Élisée a dit à la veuve, il dit, madame, vous avez l'huile, mais maintenant il vous faut des vases vides. Et il faut que vous remplissiez d'huile ces vases-là, et ce sont ces vases remplis que vous allez vendre et l'huile et vous allez payer vos dettes. Jésus dit, vous voulez le miracle, mais vous êtes vide. Remplissez d'eau d'abord ces vases-là. Remplissez votre vie de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui est dans votre vie-là, l'eau est quoi? L'eau est un élément inodore et incolore. Et parfois, on n'en tient pas compte. On veut des choses. Mais pour avoir un vin pétillant, pour avoir un vin rouge, il faut d'abord de l'eau. Mais l'eau est un élément qui semble être trop naturel. C'est incolore, c'est inodore. On ne voit rien là-dedans. C'est ça la parole de Dieu. Parfois, elle est simple à vos mains. Parfois, elle est inutile entre vos mains. Vous la trouvez, vous la mettez de côté. Mais il n'y a pas de miracle si votre vie n'est pas remplie d'abord de l'eau de la parole. Il n'y a pas de miracle. Dieu va changer quoi? Dieu est un changeur. Il change un pécheur en saint. S'il n'y a pas de pécheur, il ne peut pas changer. Dieu est un transformateur. C'est ce que vous donnez à Dieu qu'il transforme. Quand les voyous, les bandits du temps de David venaient à David, ils étaient tous des voleurs, étaient tous des gens de mauvaise vie. Mais David les a transformés en vaillants héros. On ne peut pas transformer ce qui n'existait pas d'abord. Il n'y a pas de miracle sur du vide. Ça, c'est la souveraineté de Dieu qui fait ça. Mais quand il travaille avec nous, Dieu veut que vous lui donniez quelque chose. Je ne parle pas d'argent, non. Si votre cœur est méchant, Dieu dit, donnez-moi votre cœur méchant et je vous donne en retour un cœur nouveau. C'est ça la transformation. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Mais ce qu'il vous demande n'est pas difficile. Le miraculeux n'est pas quelque chose au ciel. Quand je parle de miraculeux, je ne parle pas des miracles, des signes, je ne parle pas des aveugles qui voient, je ne parle pas de ça. Je parle de notre vie quotidienne. Ce que Dieu vous demande, puiser de l'eau, c'est difficile. N'importe qui peut le faire. Dieu vous demande. Il dit, multipliez les et donnez-leur à manger. Ils ont amené les pains. Jésus a pris les pains. Et puis, il a regardé, il a rendu grâce au pain. Il a donné les pains. Il dit, donnez-les maintenant. C'est difficile, ça. Nous avons créé le miraculeux mystique. Alors, on pense que le miraculeux, c'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose de bizarre. Et donc, non, il y a des gens seulement qui ont un pouvoir. Non, c'est pas vrai. Il faut démystifier ça. Lisez la Bible, vous allez voir comment Dieu opère. Et la plupart du temps, Jésus a opéré au niveau des gens. Il est descendu à leur niveau. Et il a opéré. Quand il est monté au niveau de Pierre, il dit, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'as agapao? Pierre dit que lui, il ne peut pas. Il a répété deux fois, est-ce que tu m'as agapao? Pierre dit, il ne peut pas. Troisième fois, dit Jésus descend au niveau de Pierre. Il dit, est-ce que tu me filais où? Si tu peux pas m'aimer avec l'amour de Dieu, au moins, est-ce que tu peux m'aimer avec l'amour fraternel? Est-ce que l'amour de Pierre a dit, même là, il ne comprend pas. Jésus ne vous impose pas quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. Dieu savait qu'aucun homme ne peut aller au ciel. C'est pourquoi Dieu est descendu du ciel. Il est venu à notre niveau, pour opérer à notre niveau. Dieu ne vous demande pas de faire des miracles pour atteindre le ciel. Quand Naaman est parti voir Élisée. Naaman avait une pensée mystique. Comme la plupart des gens, le miracle, c'est une chose mystique selon Naaman. Il faut que le prophète sorte, qu'il vienne vers moi, qu'il fasse des incantations, qu'il fasse des gestes bizarres et je serai guéri. Le prophète, au lieu de faire cela, lui envoie une simple parole. Va te laver 7 fois au Jourdain, tu seras guéri. Une parole simple. Tu sais nager, non? Va te laver. Quand nous habituons à ça, nous voyons beaucoup de choses se passer. Et on n'a plus peur. Quand les événements grands, les grands événements arrivent, on n'a pas peur. La première fois que j'ai vu quelqu'un ressusciter, j'ai vu des morts ressusciter. La première fois que j'ai vu, j'étais directeur de service, directeur d'entreprise. Le comptable est venu m'appeler que son neveu est mort. Je suis allé, j'ai trouvé la foule qui voulait déjà l'enterrer. J'ai voulu faire des discussions, j'ai voulu parler. J'avais le Nouveau Testament des Gédéons, le Nouveau Testament bleu. J'ai sorti ça, j'ai ouvert, je voulais prêcher. Tout le monde riait. Et ils sont venus enterrer un enfant, voici un fou qui vient pour prêcher. Dieu m'a dit, mets ton Nouveau Testament en poche et parle la parole sur l'enfant. Alors, j'ai eu le courage, j'ai dit, madame, amène le corps de l'enfant. Ils ont pris le corps de l'enfant amené. J'ai tenu dans ma main. Et les gens riaient. Dieu dit, parle la parole sur l'enfant. Il dit, mais quelle parole? Il dit, mais dis ce que Pierre a dit. Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas Pierre. Il dit, mais dis-le. Là, j'étais embarrassé, j'étais au milieu des gens qui ne sont pas chrétiens et qui me regardaient. J'étais directeur, ils me connaissaient comme directeur. Il dit, mais voilà, ce directeur-là, il est fou. Ma réputation était en danger, en jeu. Chacun a une réputation qu'il veut défendre. Je voulais défendre ma réputation, mais Dieu me dit, il dit, parle, comme Pierre a parlé. Et alors, devant tout le monde, j'ai dit, je n'ai ni argent ni or. Il me dit, dis ce que tu as. Dis ce que tu as. Tu as quelque chose? Non, je dis, oui. Tu as quoi? Le nom de Jésus, la foi. Dis à l'enfant, au nom de Jésus-Christ, tu reviens à la vie. Quand j'ai fini, l'enfant n'est pas revenu à la vie. Mais Dieu dit, donne à la maman. Je vais t'enseigner quelque chose. Donne à la maman et dis à la maman, l'enfant va revenir à la vie, donne-lui de la bouillie pour boire. Et dis-lui que tu reviendras à 17h voir l'enfant. Quand je partais, il était 10h du matin. Dis-lui, à 17h tu reviens. Et Dieu m'a mis dans l'embarras. Mais vous imaginez, toute la ville me connaît comme directeur d'entreprise. Mais partout, les journaux vont écrire sur moi, mais il est fou, c'est un mystique, c'est une secte. Mais quand je partais, j'avais une assurance dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'assurance. À 16h30, j'ai pris ma voiture pour venir. Et j'ai trouvé textuellement ce que Dieu avait dit. Et cet enfant-là, aujourd'hui, est dans un séminaire. L'enfant est revenu à la vie. Mais j'ai vu cela simplement. Voilà, frère, parce que l'auteur de la vie m'a dit de prononcer la vie. L'auteur de la pêche a dit à Pierre, pêche. L'auteur du mariage a dit aux gens, remplissez d'eau les vases et allez montrer maintenant cette eau-là. Il dit, vous avez 2 pieds? Ils ont dit oui. Marchez, allez montrer au maître de cérémonie. Vous avez des mains pour puiser l'eau? Oui. Vous avez 2 pieds pour marcher? Il dit, puisez, allez montrer. Puisez, allez montrer. Entre le maître de cérémonie et ses disciples-là, il y avait peut-être 10 mètres, 20 mètres, mais c'était comme un périple. Quand il marchait, il dit, mais est-ce que, hé, mon ami, qu'est-ce que tu as dans ton verre? Il dit, mais c'est de l'eau. Mais Jésus nous embarrasse, ce type-là. Le maître de cérémonie veut du vin, et nous avons de l'eau. Même jusqu'à un mètre, ils ont regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, mais c'est de l'eau. Mais dès que le gobelet est passé de la main de ceux qui présentaient et dans les mains du maître de cérémonie, le miracle a eu lieu. Le miracle parfois dépasse vos capacités, vos pensées, frère. Parce que vous voulez voir le miracle, vous voulez le décrire. On ne peut pas décrire le miracle. On décrit le processus. Mais au moment où le miracle se passe, c'est un mécanisme qui vient de Dieu lui-même. Vous devez croire simplement. Vous devez croire simplement. Dans votre vie, c'est ça. Quand vous devez prier, rien ne se passe, mettez la situation entre les mains du Seigneur. N'ayez pas peur. Faites ce que vous avez fait et c'est fini. Et ils ont fait cela, frère. Et quand ils ont fait cela, alors le maître de cérémonie prend, il dit, mais c'est pas possible. Vous avez réservé le meilleur vin à la fin. Tout ce que Jésus transforme est meilleur. C'est pourquoi il transforme un pécheur, il devient un meilleur mari. Pas un bon, hein, il devient un meilleur. L'eau changée en vin, le premier des miracles. C'est le mécanisme que je vous ai annoncé depuis chaque matin de la conversion et la transformation. Vous voyez bien ici, c'est le même principe. Textuellement, la même chose que je vous ai enseigné, c'est ça le miracle. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est de la conversion à la transformation, de la nouvelle créature. Vous voyez ici, l'eau naturelle, l'eau fade, inodore et incolore, transformée en un vin pétillant. Un vin dont l'odeur est formidable. Et le maître de cérémonie est enchanté par ça. C'est ça que Dieu fait dans nos vies, c'est ça que Dieu fait dans nos situations. C'est pourquoi il peut faire disparaître un cancer et la peau de Naaman a quitté la peau de lèpre et est devenue comme la peau d'un bébé. Il peut enlever un cancer instantanément et ou graduellement et ce cancer a disparu totalement. C'est ce que Dieu fait parce qu'il est le grand médecin. Mais il attend quoi? Que tu fasses ce qu'il te dira de faire. Il a dit par ses meurtres sûrs. Il dit, vous êtes malade, par mes maîtres sûrs, vous êtes guéri. J'ai pris vos maladies, je me suis chargé de toutes vos infirmités. On a prié pour toi longuement, ça n'a pas marché. Tu as vu d'autres personnes qui ont eu des miracles instantanés. Il y a des miracles instantanés, il y a des miracles, donc, qui sont des miracles qui vont par étapes. N'impose pas à Dieu que tu sois guéri instantanément. Ce qui est important, que tu sois guéri. Si Dieu te guérit instantanément, gloire à Dieu. Si tu es guéri par étapes, gloire à Dieu. De toute manière, guérison est guérison. Mais si tu veux imposer à Dieu, tu as guéri cette sœur-là instantanément, guéris-moi. Alors, frère, tu peux être dans la désillusion et ensuite, tu peux et perdre ta guérison. Ce qui est important ici, c'est que, on a vu, à partir du vin qui a manqué, maintenant on a un vin pétillant dans la main du maître de cérémonie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des étapes. Jésus ne s'est pas arrêté d'un seul coup, puis il a fait un miracle, il dit, viens, viens. Il n'a pas dit, oh, change-toi en vin. Non. Il a demandé ta participation. Il a demandé que tu puisses être co-ouvrier avec lui. Le miracle, c'est cette collaboration avec le Seigneur, en s'appuyant sur sa parole. Et si nous faisons cela, nous voyons Dieu agir. On va s'arrêter là ce soir, mon frère et ma soeur. Et c'est pourquoi, vous qui êtes venus parmi nous ce soir, qui n'avez pas encore passé par ce processus de la conversion à la de l'étape, donc, de quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, Dieu veut ce soir changer votre vie. Dieu veut opérer dans votre vie, là où vous êtes, chers amis, vous êtes venus à cette réunion-là, vous voulez ce soir que Jésus vous touche. C'est une occasion que le Seigneur vous donne pour transformer cette vie que vous menez, cette vie fade, cette vie vide de sens, cette vie qui a beaucoup, beaucoup vous a fait du mal. Il veut donner une saveur à cette vie en vous faisant passer à être des créatures nouvelles. Si vous êtes parmi nous, vous voulez accepter que Jésus change votre vie, vous levez votre main là où vous êtes simplement. Même s'il y a une seule personne, vous levez votre main car vous avez l'importance aux yeux de Dieu. Vous voulez que ce Jésus-là change votre cœur ce soir. Si vous voulez lui donner votre cœur pécheur, il va vous donner un cœur de saint, un cœur d'homme créé de nouveau, un cœur de quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu. Là où vous êtes, vous levez votre main. Et voilà, plusieurs ont levé, ok? Très bien, mon ami, c'est bon. Mets ta main, que les autres frères ne me regardent pas. Les chrétiens en Europe, quand on prie, vous regardez, ce n'est pas du cinéma là. Vous êtes là, baba. Commencez à prier. Des gens sont en train de naître dans un royaume, vous n'êtes pas heureux, alors que le ciel est dans la joie. La Bible dit qu'un seul homme qui vient à Dieu, les gens sont quoi? Et toi, tu es assis, tu es pressé d'aller à la maison. Voilà, levez bien vos mains. C'est formidable. Ok. Bon, mettez votre main à votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, ce cœur déchu, ce cœur méchant, j'ai essayé de le changer, de le transformer, de l'améliorer, mais c'est en vain. Mais ce soir, j'ai réalisé que tu es l'auteur du miracle et l'auteur du miracle de la nouvelle naissance. C'est pourquoi je viens avec ce cœur pécheur. Je te le donne. Parce que je crois ce soir que par ta mort à la croix du calvaire, tu as payé le prix et tu m'as pardonné. Et que par ta résurrection, ton Saint-Esprit opère dans mon cœur pour enlever ce cœur mauvais, pour mettre en moi le cœur spirituel nouveau. Car tu es l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés, qui a pris mes péchés et qui m'a réconcilié avec Dieu, le Père. Je crois de tout mon cœur que tu es mon sauveur. Tu viens dans mon cœur maintenant et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Et je reçois maintenant non seulement le pardon de mes péchés, la réconciliation avec Dieu le Père, je reçois une vie nouvelle. Père, je te remercie ce soir pour cette grâce-là. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci Père. Amen. Je vais prier rapidement pour deux cas, ceux qui ont des problèmes d'oreille, qui une oreille n'entend pas bien ou cette oreille fait du bruit. Si vous croyez que Dieu est capable ce soir, que Dieu est réel, vous mettez votre main sur cette oreille qui bourdonne, cette oreille qui n'entend pas. Vous mettez votre main sur l'oreille qui ne fonctionne pas. Maintenant, vous mettez votre main et vous levez l'autre main pour que je sache que vous êtes là. Croyez ce soir, frère. Je priais, le Seigneur m'a dit, il faut qu'il sache que lui, il est un Dieu réel. Il est capable de réparer les oreilles. Il est créateur et réparateur. Il guérit les oreilles. Lève ta main et pose ta main, l'autre main sur l'oreille qui ne fonctionne pas. Crois maintenant. Excellent Père de grâce. Je viens contre ces oreilles. Qu'elles soient sourdes ou qu'elles soient maintenant des oreilles qui font du bruit, qui coulent. Je réprime au nom de Christ Jésus cet esprit d'infirmité qui agit dans cette oreille et qui bourdonne et qui n'entend pas. Je commande par l'autorité du nom de Christ Jésus, car celui qui est en moi est plus puissant, son nom est plus puissant que la surdité partielle. Je réprime cette surdité partielle. Je commande à cette surdité maintenant de cesser dans le nom de Christ Jésus. Et je commande au nerf auditif de fonctionner. Je commande à cette oreille de fonctionner maintenant. Tu entends, ton tympan est restauré, les nerfs sont restaurés. Je commande que les bourdonnements s'arrêtent, que l'écoulement s'arrête. Et au nom de Christ Jésus, que cette oreille entende maintenant. Reçois l'attouchement de la main du Seigneur Jésus. Et reçois ce soir la guérison de cette oreille-là. Reçois cela maintenant au nom de Christ Jésus. Et rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Remercie le Seigneur, enlève ta main et commence à faire du bruit si l'oreille n'entendait pas. Dis à ton voisin, c'est cela que nous devons faire, frère. Dis à ton voisin de faire du bruit à cette oreille-là et tu fermes la bonne oreille maintenant. Deuxième, ceux qui ont une mauvaise vision, vous ne voyez pas de loin ou vous ne pouvez pas lire la Bible ou vos yeux larmoient. Mettez votre main sur vos yeux maintenant. Mettez votre main sur vos yeux. Ce soir, ce sont les deux éléments que j'ai reçus. Crois maintenant, mon frère, ma soeur. Ça peut se passer instantanément ou ça peut se passer et ton médecin va démontrer que cet œil-là est restauré. Ce glaucome est parti maintenant. Père, je te bénis, je te loue. Maintenant, ils ont posé leurs mains sur leurs yeux. Cet esprit de cécité qui se manifeste par les glaucomes, par cette oppression dans cet œil, je réprime cet esprit maintenant d'infirmité, de cécité, et je commande que cet esprit cesse, car c'est dans le nom de Christ Jésus que j'invoque ce nom et sur ses yeux, je commande à la cécité, je commande au larmoiement, je commande au picotement, je commande à ce glaucome, maintenant, d'être détruit au nom de Christ Jésus. Je commande que ses yeux fonctionnent, maintenant au nom de Christ Jésus, que la vision lointaine soit manifestée et que la vision pour lire soit manifestée maintenant au nom de Christ Jésus. Recevez l'attouchement de la main de Jésus maintenant. Recevez l'attouchement de la main de Jésus maintenant dans vos yeux et enlevez vos yeux et commencez à voir. Si vous ne pouvez pas me voir très loin, commencez à regarder attentivement. Les ombres commencent à devenir plus claires et si vous ne pouvez pas lire, commencez à regarder votre Bible. Frère, ce n'est pas de l'amusement, nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous croyons la parole de Dieu. Merci ce soir, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, que le peuple de Dieu dise Amen.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, sa grâce soit sur vous, au nom de Christ Jésus.